Allez, bonjour tout le
Oui.
monde, nouveau team manager et aujourd'hui nous sommes avec Thomas Lorblanchet de ASICS. Salut Thomas.
Salut Hugo, salut à tous.
Alors Thomas podcasteur aussi, hein, puisqu'il a créé l'exceptionnel De la Borne plein les oreilles qui nous avait ravis notamment en période Covid. Ils sont toujours dispo les épisodes, Thomas, j'ai pas vérifié.
Oui, les épisodes sont toujours dispo. Après, on est un petit peu en sommeil
Ah
sur...
oui, vous dormez bien là.
Ah, on est en sommeil prolongé là, ouais, on est même en coma.
Ouais.
En coma parce que du coup, mon acolyte a pris des orientations différentes parce que maintenant il s'occupe de de Ecoy États-Unis. Donc on est sur des temps professionnels bien plus importants de son côté et du mien aussi. Donc bon, pour l'instant c'est en sommeil. Peut-être qu'on se réveillera à l'aide d'un beau baiser. Mais pour
Eh
l'instant,
oui.
on est en sommeil.
Mais je le conseille aux patriotes qui nous écoutent aujourd'hui, c'était excellent. C'était excellent. Alors Thomas, aujourd'hui, tu es là pour ton rôle. Bon, tu as beaucoup de rôles, mais celui de team manager. Voilà, c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Team manager de ASICS. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment la définition que tu as au sein de ASICS? Et si oui, depuis combien de temps tu fais ça?
Alors moi, la définition que j'ai chez ASICS, elle est simple. En fait, moi, je vais être déjà pour la petite histoire, je suis pas rémunéré, enfin, je suis pas un salarié d'ASICS. Je suis consultant et dans ma casquette de consultant, j'ai effectivement à intervenir auprès d'ASICS. J'ai un contrat qui me lie à ASICS pour des opérations, notamment celles d'optimisation, on va dire, de la performance pour les athlètes France et plus particulièrement, on va dire, les jeunes issus du TEF. Maintenant, parce que finalement, moi, je suis rentré à chez ASICS en tant que, pour cette casquette-là, il y a à peu près 3 ans. Et 3 ans, finalement, il y avait tout le recrutement que j'avais pas eu à faire, notamment avec les maris, Sissi, Benji, donc, qui étaient plus historiques finalement dans le team. Donc du coup, moi, j'avais en charge globalement de la gestion de la non-gestion de Sissi et Benji, qui sont quand même beaucoup plus à même de se gérer eux-mêmes. Et puis en fait, moi, je suis rentré via la casquette TEF, en fait. Trailhead Factory, ils cherchaient une figure pour gérer la communication et globalement la prise de parole sur ce projet-là, et notamment prise de parole média au sein de la marque.
D'accord. C'est quoi que t'appelles TEF, Trail Elite Factory?
Trailhead Factory, on va dire, c'est le process de recrutement d'ASICS pour les jeunes. Alors
Ah
maintenant, ça a
oui.
été. Voilà. Le premier, finalement, c'est assez marrant parce qu'il y a eu il y a eu un papier de la part de Fred Bousseau, de Miles. Il monte un média, là, Miles Sandstone, je crois. Et finalement, en fait, où il faisait un petit peu l'historique de tous ces trucs de recrutement via les jeunes. Et effectivement, le premier, je pense que c'était effectivement celui de Salomon,
Ouais.
qui avait vu le jour en 2000, ça doit être du 2009-2010, 2010 peut-être, avec finalement la première promo qui avait sélectionné, il y avait Thibaut Barognan
Et
à
Bouxis
l'époque. Il y avait Guillaume Boxis, exactement. Il y
de
avait même
Villaz.
ouais, Sacha. Et il y avait un qu'on n'avait volontairement pas pris, Matteo Jacquemous, finalement, qui était aussi dans la promo, mais qu'on avait volontairement écarté parce que finalement, le projet Team, je pense qu'il ne convenait pas forcément bien, malgré une bonne appétence pour le Pentu. Et du coup, voilà, c'était cette première. Et là, le jury de sélection était constitué finalement de Jean-Mi, de Samuel Bonodo, Christophe Mallardé, moi-même. Donc, on avait en charge d'évaluer les jeunes. Et puis finalement, en fait, ça a donné le lieu à le Team Espoir. Et donc, en gros, ASICS a lancé ça. Il y a maintenant la première promo avec Hugo Deck et Marie, qui était de 2000, peut-être 19 par là. Et cette première promo, en fait, elle a lancé le process TEF. Et ce process TEF, en gros, il est un petit peu calé sur ce qui se fait enfin, finalement maintenant avec des manches de sélection et une finale qui, au bout de la finale, sélectionne un gars, une fille pour intégrer le team.
Ok, ouais. Ah ouais, c'est C'est assez bien, ces équipes de jeunes. On voit Scott, ils en ont une aussi. Au Kabof, ils ont sorti pas mal de bons athlètes. Ça fonctionne bien. Ouais. Ok, toi, Thomas, tu as déjà été athlète ASICS par le passé. Puis là, tu reviens avec une autre casquette. Depuis que tu es revenu en tant qu'un peu, voilà, où tu chapeautes un peu les jeunes athlètes, on va dire, est-ce que tu as vu des évolutions au sein de la team? Alors du coup, peut-être, vu qu'ASICS, c'est un très très vieux team de trail, je pense que Laurent Hardito, c'est peut-être lui qui avait créé ça, non? C'est lui qui chapeaute tout depuis le début presque. Quelles sont
Alors,
les évolutions que tu as pu voir?
bah, en fait, le team trail de base, il a été. En fait, effectivement, il date de 2004 quasiment, je crois. 2004-2005,
Ouais.
ouais. Quasiment à peu près contemporain à la création du team Salomon. En fait, il est issu finalement d'un accompagnement d'un team de raid. Qui était en fait celui de Laurent Hardito avec bah, des gars qui faisaient beaucoup de raids. Et en gros, ASICS a commencé à rentrer dans le monde de l'outdoor, tout du moins dans ce qu'on voit à peu près maintenant, par le biais du raid en équipant l'équipe, et notamment enfin en chaussures. Et finalement, en gros, quand le trail a pointé le bout du nez chez ASICS dans les tuyaux des hautes sphères, ils se sont dit, bah non, mais finalement, nous, on accompagne déjà des gens outdoor, bah, on va s'en servir comme support premier. Et ce support-là, en fait, a créé progressivement le team trail. Alors, la grande différence par rapport à maintenant, c'est que le team trail, à l'époque, même en 2013, c'était beaucoup plus franco-français, en fait. C'était uniquement une antenne à la française. Alors, en gros, le trail chez ASICS, c'est beaucoup l'Europe, et dans l'Europe, c'est beaucoup la France. C'est-à-dire que c'est quand même la France qui a donné plus ou moins le là. Mais maintenant, à la grande différence alors moi, pour les années à ASICS, c'était 2013-2014. La grande différence, c'est que maintenant, le team est beaucoup plus international, avec un recrutement bien plus large que ce qu'il était à l'époque. Et puis finalement, les Français sont juste peut-être une proportion minime de l'effectif global des athlètes. Par contre, globalement, toutes les grandes décisions stratégiques en termes de Trail Europe passent par effectivement la France et Laurent et moi en tant que conseiller, j'allais dire privilégié, c'est peut-être le terme, ouais, peut-être le plus approprié, de Laurent.
Et du coup, est-ce que tu as vu des grandes évolutions là-dedans? J'imagine, au tout début, il n'y avait peut-être pas tout de suite des contrats, peut-être pas professionnels, plutôt semi-professionnels. Enfin, après, s'il y a des athlètes professionnels, tu peux nous le dire, mais je ne crois pas.
Alors, bah, en fait, des athlètes professionnels, il y en a toujours. Ça dépend quel grade on a. C'est
Ah
toujours un
oui,
peu le
bien
même
sûr. Ouais, vaste
serpent.
question.
C'est toujours le même vieux serpent de mer. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire professionnel? Est-ce que un contrat de 20 000 euros par an, c'est un contrat
Oh, c'est
professionnel?
chaud.
Eh ben, ça commence à être compliqué. Donc, oui, après des contrats avec des sommes à 5 chiffres, il y en a. Il y en a même un petit peu pas mal. Après, j'ai envie de dire, et ça, après, on pourrait en discuter, hein, mais je pense que dans un contrat, il y a autre chose que simplement les chiffres en bas de page, parce que effectivement, il y a pas mal d'avantages, de conseils et d'accompagnements qui sont finalement pas chiffrés et qui à la fin sur une saison comptent beaucoup. Là, pour la petite histoire, on a recruté quelqu'un. Bon, je ne sais même pas si c'est encore très officiel ou pas, je ne sais plus. Globalement, il est venu chez ASICS parce que justement, il y avait cet accompagnement-là et lui, le concept de gagner 5 000 balles de plus et finalement se retrouver scellé toute l'année, pas avoir d'expert avec qui discuter, pas avoir de consultants, de gens qui réfléchissent à une stratégie de saison et de carrière, bah, Suisse, à la longue, je pense que ça pèse. Et les jeunes aujourd'hui, je pense que ne mesurent pas forcément les tenants et les aboutissants de cet accompagnement-là.
Ouais, ça c'est très vrai. Et d'ailleurs, ASICS a toujours procédé de la sorte, puisque bah, moi je me souviens de quand je commençais à courir, il y avait Benoît Nave qui gérait pas mal l'entraînement et la nutrition, je pense, des athlètes au sein d'ASICS. Puis t'étais coureur à ce moment-là.
Alors, il gérait pas les entraînements, il gérait l'entraînement de certains. Ils géraient aussi la nutrition de certains,
Oui, pas tout le monde, ouais.
avec une certaine philosophie nutritionnelle qui allait à certains et moins à d'autres. Voilà. Après, on a toujours eu, effectivement, ASICS a toujours eu à cœur de nous entourer de consultants du terrain. Benoît venait du vélo, il avait une appétence, il se mettait tout doucement, enfin, il attaquait le trail en fait, enfin il attaquait le trail, oui il courait mais il courotait, il s'est mis au trail en fait via l'accompagnement de Xavier, même si sur les courses une bonne partie de l'assistance était gérée par le team, notamment Cathy. Benoît accompagnait Xavier dans sa stratégie nutritionnelle et en entraînement.
J'avais un truc dans la gorge. Alors, question exceptionnelle, Thomas, maintenant, la meilleure de toutes, qu'est-ce qu'un team?
Je pense que l'intime, pour moi, ça serait un collectif qui se regroupe autour des mêmes besoins et surtout d'un même projet et qui se retrouve finalement au sein d'une marque ou au sein de plusieurs marques. Typiquement, donc là on parle du team ASICS, c'est la grande différence par exemple maintenant par rapport à ce qu'elle était, ce qu'était le team il y a quelques années. Maintenant, le team ASICS, il est en marque unique. Alors qu'avant, à mon époque, le team ASICS était une espèce de collectif également de marques. Également de marques qui est regroupée. Par exemple, nous on était sponsorisé également par Compex, on avait une marque de nutrition, un peu comme les teams de vélo aujourd'hui.
Oui.
Il y avait un naming et il y avait tout un accompagnement et une espèce d'atmosphère et de marques associées. Et ces marques associées en fait équipaient l'ensemble des athlètes. Alors, des fois c'était intéressant. Quand l'athlète n'est pas un athlète majeur, quand c'est un athlète majeur, en fait, finalement, il sert il a un rôle finalement attractif pour les autres marques. Et auquel cas, c'est intéressant pour les athlètes qui sont finalement sous la coupe de l'athlète majeur pour récupérer des contrats. Alors après, ça va ou ça va pas. Ça peut aller pendant un certain temps de carrière, ça peut ne moins aller pendant d'autres temps. Mais là aujourd'hui, ASICS, enfin, le team ASICS, c'est un accompagnement textile, chaussures et bagagerie. Et après, en fonction de ça, hein, il y a des cas particuliers, mais sur des contrats qui sont signés avant d'intégrer le team.
Ah ouais, ça
Et
c'est
c'était quoi?
une question qui ressortira tout à l'heure. Non, non, bah qu'est-ce qu'un
Ah oui,
team? Du coup, toi, tu l'as bien
ouais.
défini, on comprend l'image globale, c'est-à-dire que tout le monde doit se ressembler, enfin, à travers les...
Alors, non, pas, non, je dirais, non, non, au contraire, je dirais pas que tout le monde doit se ressembler, je dirais que tout le monde doit avoir une vision collective. Et que globalement, il y a certains, par exemple, qui peuvent en gros se transformer plus en accompagnement, en pacing, en temps imparti. Et puis, en gros, peuvent devenir plus athlètes majeurs dans un autre temps imparti. Donc, mais il y a quand même un projet collectif. Tout le monde ne se ressemble pas. On a des gens qui sont
Non, je parlais en
plutôt.
textile, Thomas, en
Ah
visuel.
oui. Ah oui, en visuel, oui. Oui.
Faut que tu arrives
Bah ouais,
sur une
parce que.
course, s'il y a un membre du team ASICS, faut que tu le vois, quoi. Faut que tu le repères.
Oui, puis en plus, après, il y a ce qu'on appelle les marques un peu importantes dans le trail. Souvent, elles ont ce qu'on appelle des silhouettes de saison. Donc, pour chaque
Oui.
moment de saison, une silhouette. Avec un haut, un bas identifié pour les gars, un haut, un bas identifié pour les filles, avec un dress
Ah, c'est
code.
misogyne ça.
Oui, parce que pour l'instant, on ne fait pas courir les filles, les gars en short, en jupe, mais
Ah ouais,
peut-être,
la jupe. Ouais.
on n'en sait rien de ce que sera de ce que sera l'avenir dans 5 ans, mais aujourd'hui, on a quand même un code couleur pour les filles et un code couleur pour les gars. Mais c'est très joli, hein. On
C'est bleu et rose.
Ouais, on n'est pas loin de ça. Non, 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 on est quand même. Non, on n'est pas forcément bleu et rose, mais on est effectivement un peu plus pastel pour les filles.
Ok, ouais. Et non, bah ça viendra après. Ça viendra après. Du coup, Thomas, bon, on n'est pas dans le vélo, t'es pas payé à temps plein pour être le team manager et chapeauter un peu tout le monde. Mais quand il y a un athlète français de ASICS, bon, bah, voilà, c'est vers toi qui se tourne et qui prend ses conseils, etc. Donc on te donnera la casquette de team manager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un team manager, du coup, doit faire au quotidien? Enfin, quand je dis au quotidien, c'est disons régulièrement, quoi, parce qu'au quotidien, non.
Bah, moi, je dirais qu'un team manager au quotidien, il a surtout le rôle de faire en sorte de gérer l'imprévu, de gérer les problèmes de logistique, de matériel, de dossard, et puis en fait répondre aux attentes des athlètes pour optimiser soit leur entraînement, soit la performance du jour J. Donc ça va, enfin, c'est un peu manière multifactorielle. Et aujourd'hui, moi, ça peut aller de un conseil santé à un conseil contractuel ou un conseil matériel ou de saison, d'organisation de saison. Hier, j'avais une visio avec un athlète pour qui me demandait un petit peu ce que je pensais d'une organisation optimale pour arriver sur un UTMB. Quelle course pouvait être intéressante, comment il pouvait organiser sa saison, à quel moment il devait organiser son entraînement plus. Donc voilà, et à côté de ça, je vais avoir quelqu'un qui a une fracture de fatigue et quel conseil je peux lui apporter et quel réseau de soins on peut le mettre en place.
Ouais, donc c'est là, on revient sur ce que tu disais au début, c'est que en fait les athlètes de ASICS bénéficient de vrais conseils
Ouais.
en ta qualité, puisque tu sais à peu près tout faire.
Et ben oui, et puis par exemple, ce week-end-là, là, ben, j'étais à la Saint-Élion
Ouais,
et
tu étais sur le bord du terrain.
je faisais l'assistance de Marie.
Ouais, qui fait deuxième d'ailleurs.
Au deuxième, son entraîneur était présent également. C'était Fabien que je connais. Alors finalement, moi
Ah
maintenant,
oui.
je commence à avoir un peu d'années dans le milieu qui fait que bah oui je commence à avoir un peu une vue d'ensemble de bah, la plupart des gens qui ont mon âge et qui sont encore dans le milieu, je cours avec eux ou j'étais contemporain. Donc là pour la petite histoire, voilà, moi j'étais simple grégario du camion et passage de bidon et optimisation du timing. Et bon, à un moment donné, on a presque cru que c'était que j'ai que elle allait pouvoir remonter sur Julie, puis finalement non. Mais voilà, toute cette stratégie, le petit mot qui va bien, la petite attitude qui va bien, le petit tips qui peut aller dans le bon sens. Donc voilà, moi j'ai à cœur de via mes anciennes casquettes de faire partager au sens le plus large pour les athlètes du team.
Ouais, ok, tu agis le jour J comme une sorte de, voilà, de personne rassurante, parce que tu sais où te placer, tu sais ce qu'il faut faire pour déstresser un peu l'athlète. Ouais. Puis on imagine en plus avec Marie qui vivait sa première longue distance sur une course qu'elle apprécie un peu à la maison, que c'était à la fois beaucoup, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup peut-être de peur, je pense, avant le départ. Donc c'est assez utile, ouais.
La peur, non, mais là, je pense qu'il y avait effectivement un peu de pression. Elle s'était mis une pression à juste titre, parce que finalement, elle tombe quand même passée pour un premier long et et un one shot de fin de saison. C'était quand même bah, là, quasiment réussi à transformer l'essai complet. Donc, ouais, c'est pas de la peur, c'était une petite appréhension parce qu'elle n'avait jamais couru autant. Et bon, l'avantage de là, c'est qu'elle connaissait extrêmement bien le parcours, elle s'entraîne sur le parcours depuis quelque temps. Donc, non, elle connaissait extrêmement bien le truc. Elle allait vraiment pas en terrain inconnu.
Ouais. Bon, après, il y a quand même les conditions météo et tout. Bon, voilà, c'est pas facile à gérer. Tu as combien d'athlètes, Thomas? Est-ce que tu gères ou est-ce que tu échanges justement avec un petit peu les étrangers européens? Parce qu'on a vu par exemple là, il y avait Bénédicte Hoffmann, il y avait Didrik Hermansen aussi qui était à la Saint-Élion. Est-ce que c'est des gens avec qui tu dialogues un peu?
Alors oui, par exemple Didrik, pour le coup, pour la petite histoire, moi j'ai déjà couru avec Didrik sur les. On a fait des synthé... on a fait pas des synthé... on a fait une western ensemble, on a fait Ultra Vazan. Donc c'est quelqu'un qui a été contemporain quand moi je courais. Donc oui, j'échange avec lui. Bénédicte, j'échange également avec lui bah, parce que c'est un athlète ASIC, c'est quand il a besoin pour plein de. pour plein de problématiques qui ne sont pas forcément en lien directement avec la performance, mais j'échange avec lui. Et puis après, ben, oui, on a d'autres. Il y a Sarah Alonso également. Voilà,
Ah
on
oui,
a
elle était
cité.
là en plus.
Il était là aussi également. Donc, voilà, c'est des athlètes bah, de bon calibre, hein, même un Stian Angermund qui est ultra, ultra sympa. Donc, on échange sur les regroupements, en stage et ainsi de suite. On échange régulièrement avec eux. Ouais.
Et du coup, t'en as combien sous ton aile en gros? C'est quoi, une dizaine, une
Bah, sous
vingtaine
mon... Non, bah, sous mon aile, en fait, j'en ai sous mon aile personne en particulier ou tout le monde. Tout le monde est susceptible de pouvoir avoir besoin d'un conseil ou d'une recommandation. Donc là, on a à peu près une quarantaine d'athlètes total chez ASICS. Après, maintenant, moi, j'ai plus en charge quand même des Français. Non pas en lien avec mon TOEFL, mais ça aide quand même.
TOEFL.
Mais du coup, non, un TOEIC, alors on va dire. En lien avec mon
Ouais.
TOEIC à 412. Mais non, 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 c'est parce que, bah parce que du coup, j'ai participé au recrutement, j'ai participé finalement au choix de certains. Et donc, du coup, bah, je me sens plus, hein, pas légitime, mais je me sens plus proche de certains athlètes français. Bah, si on doit aller, on doit une petite, là, j'ai une petite dizaine d'athlètes, ouais, on va dire en recommandation plus rapprochée.
Ouais, parce que c'est toujours difficile de trouver des informations sur les teams, tu vois. C'est pas comme les équipes de vélo qui ont carrément des pages Wikipédia où tu vois les 30 coureurs. Là, par exemple, à ASICS, il y a quoi? Il y a les frères Melleux, Marie. Qui est-ce qu'on a en France?
Yann Racineux, Paul Cornu,
Ah,
Maël
Cornu
Danois,
Chauvin? Non? C'est un nom
Paul,
composé? Ah oui, il
ouais.
était au Templier, lui.
Il était au Templier, et là il a fait la Saint-Élion, il fait 9.
Ouais.
Voilà, enfin la Saint-Express. Voilà. On a Romain Dichert, Julie Lelong. Là, qui c'est que j'en oublie? Bah là, après les autres ont quitté le team. On a Sissi, et puis on va comme on m'a Eva Danois, je l'ai dit. Ouais, on est à peu près au cumulé, ça doit être à peu près ça. Hein.
Ouais, ça fait une
Ça doit
dizaine.
être à peu près. Ouais, une petite dizaine. Ouais.
Ok, ouais. Et donc c'est une question à laquelle tu as un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce que à ASICS, et ça se faisait par le passé, vous avez d'autres marques, c'est-à-dire l'athlète entre dans le team ASICS et puis finalement on lui dit bah écoute, nous on bosse avec telle marque de frontale et tout, donc il faut que tu la portes, on bosse avec telle montre GPS, etc. etc.
Bah ça c'était le cas avant, maintenant ça ne l'est plus du tout. C'est-à-dire
Ah
que nous,
ouais.
on va mettre en relation l'athlète avec des marques. Tu vois, par exemple, on va pouvoir mettre en relation avec Coros, avec qui on a une entente, mais ce n'est pas une obligation d'être Coros quand tu es chez ASICS. Par contre, si tu cherches un contrat montre, on va pouvoir t'orienter vers nos contacts qu'on a entre Laurent et moi sur des bâtons, sur des montres, sur des lumières. Donc voilà, par exemple, voilà, le team ASICS est plutôt en bonne entente avec Petzl. Donc oui, on s'arrange avec ça, ouais.
Ah, ok,
Mais
mais par
c'est
contre, s'il y a un athlète qui te dit moi je veux absolument une Stutz, il n'y a aucun problème.
ah, complètement. Ouais, complètement.
Ouais.
Non, non, il n'y a pas de souci. Sauf, effectivement, le seul truc qu'on empêche, c'est effectivement d'avoir un équipementier textile supplémentaire.
Ah oui. Bah oui, vu qu'ASICS fait déjà du textile, puis en plus ils ont une gamme
Voilà.
assez riche. Ouais. Et ce que je voulais dire, ça c'est quoi? C'est parce que en fait c'était trop compliqué d'équiper tout le team, en plus qu'ils doivent tous être en ASICS. Bon bah évidemment, mais il fallait tous leur mettre la même frontale, tous leur mettre la même montre, c'était trop compliqué, non? Il y avait trop de gens qui n'étaient pas d'accord. Comment ça se fait?
Non, je pense que c'est trop réducteur et c'est compliqué d'imposer à une marque. Bah, si elle veut cet athlète-là, d'équiper l'ensemble du team. Je pense que c'est même très intéressant dans la carrière d'un athlète de justement avoir cette stratégie de tisser son réseau, créer son réseau et d'être accompagné pour avoir un réseau conséquent lorsque soit il souhaite changer de team, soit effectivement ou continuer à rester dans le milieu. Là aujourd'hui, plus tu es piloté, moins tu es acteur, et moins tu es acteur, plus tu as des difficultés à devenir transversal quand tu as fini ta saison, enfin ta saison, ta carrière.
Ah ouais, bah on va y venir assez trailer assisté, là, qu'on devine un demi-mot. Est-ce que, du coup, dans le Team ASICS, est-ce qu'il y a des athlètes qui sont professionnels? Est-ce que d'autres touchent une enveloppe financière? Bon, ça, tu y as répondu à demi-mot. Donc, on a des contrats qui sont assez conséquents. Après, libre à chacun d'interpréter ça dans un rythme de vie professionnel. Tiens, Stian Angermund, il a un travail à côté ou pas?
Oui, il a un travail.
Ah ouais,
Il
putain.
a un travail. Je pense qu'il a dû se mettre à mi-temps, mais je crois qu'il, enfin, il a diminué un petit peu sa charge de travail annexe, mais oui, il a un travail à côté. Ouais,
Ouais, parce que le coût de la vie est un peu plus rude en Norvège qu'en France. Donc
je pense.
tu peux pas avoir les mêmes contrats. J'anticipe ça aussi pour Mathieu Clément, le Suisse, là, qui bah, du coup, avec la même somme qu'un Français, il fait pas la même chose. Ouais. Okay. Et est-ce que tu as des athlètes qui n'ont pas d'enveloppe financière? Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est une dotation matérielle?
Alors, on a par exemple les premiers contrats, ça restera les premiers contrats, c'est les contrats TEF. Donc on a toujours forcément une enveloppe financière. Et à côté de ça, on a tout ben, les frais sur les déplacements groupe. Donc c'est le stage, la semaine UTMB. Et la Saint-Élion. Et après, on a donc ils ont une enveloppe en plus. Et puis bien sûr la partie matérielle.
Mmh. Ouais, c'est déjà assez conséquent, même pour la base. Ouais.
Oui.
Ok, ouais. Et alors là, ça y est, on arrive enfin dans les questions intéressantes. Quel est ton avis sur le fait de donner de l'argent à un coureur? Et surtout, qu'est-ce que, alors peut-être pas toi, Thomas Laure Blanchet, mais qu'est-ce que vous, le groupe ASICS, vous attendez en échange de ce don, hein, entre guillemets? Est-ce que vous attendez plus de rigueur de l'athlète, ou est-ce que c'est plutôt pour récompenser son niveau déjà actuel?
Alors moi j'attends pas plus de rigueur. Souvent quand tu tactes une valeur, maintenant on connaît à peu près les valeurs des athlètes. Alors actuellement on a une petite bulle qui se crée dans le monde du trail avec des sommes sur certains contrats et certaines athlètes qui sont juste injustifiées par rapport à plein de choses. Mais bon, ça on pourra y revenir. L'autre problématique c'est en lien avec le fait de changer quelque chose quand tu touches de l'argent. Je pense que ton niveau, il est ce qu'il est, et tu t'améliores, et via cette amélioration, tu peux justifier d'avoir un accompagnement financier supplémentaire. Mais en gros, typiquement, moi, je ne demande pas parce qu'on te paye plus que tu sois juste meilleur ou que tu fasses plus le job. On te paye pour un tout. On te paye parce que tu es performant, ton image, elle est top, tu communiques bien, voilà, tu es comment dire, une personne influente. Et en gros, c'est normal que la proportion de ton contrat financier enfin, il soit impacté par le fait que tu gagnes mieux, enfin, tu gagnes plus de courses et que tu sois plus influent dans le milieu. Mais ça marche dans ce sens-là, pas dans le sens inverse.
Ouais, ce que tu vois, ma réflexion, c'était par exemple de me dire, bah tiens, ça fait 3 ans que cet athlète, il est avec moi, ça se passe bien et tout, mais il a un job à temps plein, et peut-être pour le sport, il faudrait qu'il diminue un peu, qu'il passe à 80 ou 50%. Bon, ça dépend de son travail, ça dépend de la taille de sa famille, de ses ambitions dans la vie. Mais tu vois, le team manager pourrait peut-être avoir la réflexion suivante, c'est de se dire, bah attends, là, je lui donnais 7 500, l'an prochain, je vais lui donner 15 000. Par contre, en échange, il bosse à mi-temps, tu vois. Ça, c'est pas des trucs qui t'ont traversé l'esprit?
Si, mais c'est pas. Enfin, pour moi, hein. Moi, tu vois, après, je me refuse parce que les codes sont différents d'avoir un fonctionnement en lien avec ma pratique et mon expérience personnelle. Mais je vais avoir plutôt un fonctionnement inverse, c'est-à-dire que c'est à lui de me démontrer qu'il en vaut plus que la peine, plutôt que moi qui prendrais le risque, en fait, de miser sur l'athlète et de me dire, OK, le gars, il a un certain niveau. Je vais miser plus, je vais lui faire en sorte d'avoir une stratégie où je lui permets de se délester d'heures professionnelles en espérant qu'il soit meilleur. Ça, par exemple, quelqu'un qui va me dire, ouais, bon, ben moi, je suis. En fait, c'est le gros problème, parce que moi, dans mes casquettes, je suis aussi impacté par le process de recrutement. Enfin, impacté. Une de mes casquettes, ça va être effectivement avoir une veille sur le milieu, voir qui marche moins bien. Et dans ma façon d'aborder les choses, enfin, d'approcher les choses, dès que je discute avec des jeunes, la première remarque qu'ils veulent, c'est effectivement, ils veulent vivre du trail. Ils veulent être professionnels. Et en fait, ça, c'est pourquoi, pour moi, c'est bloquant. C'est-à-dire que, alors peut-être que je suis de l'ancienne école, mais j'ai que 44 ans et j'ai deux gamines de 15, de 14 et 16 ans. Donc, avec quand même des questionnements sur l'éducation, sur la valeur. Et je me dis aujourd'hui, quand je souhaite être professionnel, ça veut dire que je souhaite faire une profession, faire un métier. Ce métier-là, en fait, on l'apprend. Et moi, j'ai appris mon métier. Ça fait 24, 22 ans que je suis kiné. Ben, clairement, au bout de 22 ans, je suis meilleur que ce que j'étais au début. Et c'est normal que globalement, en fait, j'arrive à avoir un budget et d'être rémunéré un peu plus, de façon un peu plus importante que ce que je l'étais au début. Maintenant, les gens, les jeunes notamment, ils veulent que la marque les suive alors qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de résultat. Et sous prétexte que tu sous-en, enfin, on va dire, tu sens un potentiel, une valeur, la marque, elle est là pour accompagner et faire en sorte que tu apprennes convenablement le boulot et qu'en fonction de ça, plus tu apprends et plus tu vas être rémunéré parce que tu auras des résultats qui conviennent. Là aujourd'hui, maintenant, les jeunes, ils veulent les conséquences avant les résultats.
Oui, exactement. C'est un sentiment que j'ai un peu eu aussi, où tu vois, tu vois, je commence dans la discipline, puis finalement tout m'est dû. Il faut que j'ai un partenaire, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Et puis en fait, quand tu regardes le palmarès du gars, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi il faut que je lui donne? Et est-ce que ça, c'est des choses qu'on t'a demandé à toi en tant qu'un peu, un peu recruteur pour ASICS? Est-ce que tu as déjà reçu, ouais, justement des propositions un peu drôle, un peu fantasque comme ça, où tu avais des gens qui, peut-être même que tu les connaissais pas d'ailleurs, et sans vraiment trop se présenter, ils avançaient déjà des arguments pour obtenir quelque
Alors,
chose de la marque.
ben en fait, le mot, ce n'est pas une proposition. Ils avancent pas avec une proposition, ils avancent avec une demande. C'est totalement différent. Quand tu avances avec une proposition, tu as un plan de carrière et un plan une stratégie professionnelle. Donc, moi, pour le coup, ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Voilà, je me vois là, je suis à 800 index. Je me vois cette année m'aguerrir dans des courses de ce type-là pour ensuite marquer des points et ainsi de suite. Ça, mais j'en ai aucun qui m'aborde avec cette stratégie-là. Ils ont une demande. C'est-à-dire que voilà, j'ai gagné le trail du Bois Chaud et l'année prochaine, je veux m'y mettre à fond et passer professionnel. Combien vous me donnez?
Ah oui, c'est incantifiable.
J'ai beaucoup plus de demandes dans ce cas-là. Hein.
Ah ouais, donc t'en as plusieurs comme ça. Ah oui, quand même.
Oui, c'est beaucoup, beaucoup là-dessus. On est plus là-dedans que dans moi. Si, et ça, par contre, voilà, j'ai juste quelqu'un. Voilà, dans mon process de recrutement cette année, j'ai un ou deux jeunes que malheureusement, moi, je ne peux pas accompagner dans le cadre d'ASICS parce qu'on a pris des stratégies différentes, mais avec un vrai bagage. Alors, pas un bagage intellectuel, c'est oui, mais surtout un vrai bagage avec un souhait d'être accompagné. Parce que il a compris la valeur ajoutée de l'accompagnement dans une stratégie de carrière. Et ça, aujourd'hui, les jeunes, ils en ont assez peu, enfin, ils en ont assez peu conscience.
Ouais, en fait, ils pensent qu'il suffit de courir, mais c'est loin d'être le cas, en fait.
Oui.
Et ouais, du coup, ouais, t'as ceux-là là, qui te. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont dans les yeux, en fait? Ils pensent quoi? Que la moitié du peloton est professionnel? Tu nous parlais d'une bulle du trail par rapport au très gros contrat. Alors, la jeune génération s'imagine que c'est pour tout le monde?
Bah, je pense que la jeune génération, à mon avis, sont issus d'une cellule familiale où ils ont été souvent mis en avant, et que globalement, en fait, ils pensent que la vie, c'est ça, et la vie, ils sont attendus dans un milieu, et que le milieu s'en portera mieux une fois qu'ils vont arriver. Mais en fait, un milieu, une carrière, ça doit se construire. Et ça doit se valoriser au fur et à mesure des résultats. Et l'important, c'est de durer dans un milieu et de réussir à capitaliser sur des résultats que tu fais et de prendre de l'expérience, de prendre du grade et de faire en sorte aujourd'hui d'être un peu meilleur que la saison d'avant. Avec bien sûr, une carrière, c'est des hauts, des bas, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que souvent, quand tu es dans le milieu, tu sais un peu la valeur des gens. Et justement, l'aspect professionnalisation du milieu, aujourd'hui, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on est en train de professionnaliser des gens, alors avec des contrats, à travers, en fait, à travers, pour des athlètes qui finalement n'ont aucune conscience de la valeur qu'ils auraient faite.
Ouais, ça c'est ça, je
Et
m'ai Vas-y, finis,
c'est
pardon.
simplement de l'éducation, en fait. C'est simplement de l'éducation. Et je comprends finalement que quand tu connais pas le milieu, tu penses que machin, il vaut tant, et que payer quelqu'un qui vaut 800, qui fait 850 à un index UTMB, non, à 850, ça vaut pas 30 000 balles par an. Et ça ne vaudra jamais 30 000 balles par an. Alors, peut-être que tu peux dire aujourd'hui, quelqu'un, il y a peut-être des contre-exemples qui disent, oui, mais lui, j'ai déjà battu, il a 30 000. Peut-être qu'il a
Ouais.
30 000, mais pas sa
Ouais, mais ça se
valeur.
trouve, il était malade. Enfin, je t'en sais rien, quoi.
Oui, il était malade, et même s'il n'est pas malade, 850, si c'est sa valeur en tant que hiérarchie, 850, ça ne vaut pas 30 000 balles.
Ouais, t'es 750e, je pense, au classement mondial.
Voilà.
Ce qui est
Bah oui.
assez éloigné, ouais. Et puis, oui, puis alors quelqu'un qui commence à se définir à travers son index ou sa cote, ça peut être vite assez ridicule parce que de plus en plus, le truc est un peu tarabiscoté, et puis surtout, suivant les distances que tu fais, donc si tu fais du 20 bornes ou si tu fais du 160 bornes, il y a peu de chances que tu aies une cote très élevée, donc oui.
Ouais, c'est clair.
Ok, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, de plus en plus, on voit ouais, justement des gens qu'on professionnalise en leur donnant plus d'argent. Du coup, tant mieux pour eux, hein, ils sont arrivés à l'obtenir. Mais tu vois toujours le même schéma, c'est-à-dire la personne reçoit de plus en plus d'argent d'une marque, continue à pratiquer son sport de la manière dont elle le faisait avant, ne s'entoure pas forcément de très bonnes personnes, elle bourrine, elle bourrine, elle bourrine, et puis à un moment donné, elle se blesse, et patati, et patata, et après. Ça part en excuses, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Vous vous rendez compte? Ma première de fracture de fatigue, moi qui pensais être immunisé contre ça. Et puis après, tu te dis, mais putain, t'es censé être un athlète professionnel, en fait, pourquoi t'as pas un kiné référent? Pas quelqu'un que tu vas voir toutes les semaines, mais quelqu'un, voilà, tu lui parles un peu de ta saison, tu lui parles un peu du volume que tu fais de temps en temps, quoi.
En fait, c'est pour ça que la plus-value, c'est qu'est-ce que, enfin, quel contrat pour quelle, en fait, pour quelle attente. Clairement, la personne qui souhaite, qui est complètement autonome, c'est d'ailleurs moi une de mes raisons pour lesquelles à l'époque, j'avais quitté le Team ASICS. C'est-à-dire que, mais encore une fois, j'avais quitté en expliquant les raisons claires à l'époque à Laurent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes attentes, ce n'était pas compliqué. J'étais autonome en entraînement, j'étais autonome d'un point de vue contractuel, j'étais autonome sur les réseaux que je m'étais créés. Et globalement, moi, mon but, c'était effectivement d'être au sein d'une marque, d'avoir le plus possible.
Bah oui, parce
Et
que tu savais tout faire déjà.
voilà, j'estimais que le prix qui m'était attribué n'était pas suffisant par rapport à ce que moi, j'aurais pu avoir en indépendant.
Ouais,
Bah,
parce que
j'ai
tu
dit, pas de souci.
bénéficiais plus du reste, en fait, t'avais plus besoin de l'aide.
J'avais pas un intérêt particulier à rester. Mais je comprends pas, les jeunes, en fait, ils veulent avoir ce raisonnement et ce fonctionnement-là, alors qu'en fait, ils pensent qu'ils connaissent tout sur tout.
Ouais, alors qu'en fait,
Et
dès
que
qu'ils vont avoir un petit TFL, ils vont pas savoir comment le soigner, quoi.
Comment tu le gères, comment tu le fais, quelles courses on fait sauter, est-ce que finalement on se fait 2 mois de vélo, auquel cas on laisse tomber celle-ci parce que plutôt que de la préparer cette course, elle va vite. Tu vois, en fait, comment tu t'organises? Et ça, en fait, ben, quand tu as signé un contrat conséquent avec une marque exotique et que globalement, tu n'as aucun interlocuteur entre toi et le marketing, ben, mais le marketing, il s'en fout, en fait. Le marketing, il veut que tu gagnes la course.
Ouais, et puis que tu fasses une belle publication après et tout, et du coup, que tu aies géré plus ou moins bien ta blessure, ça me tape un peu.
Voilà. Et t'as pas d'accompagnement associé à ça.
Ok, ouais. Ah, très clair, ça fait bien le lien avec le reste. Là, en ce moment, c'est le turnover automnal. Alors, bon, peut-être qu'il est fini, hein, parce qu'on est quand même début décembre. Tu vires qui? Tu prends qui? Alors. Du coup, c'est plutôt la question est plutôt voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit se séparer d'un coureur pour diverses raisons? Et puis comment
Ouais.
vous anticipez d'en recruter d'autres? Parce qu'il y a le Trail Elite Factory, donc là tu vas aller chercher un jeune talent entre guillemets. Mais il y a aussi peut-être bah, par exemple quand vous avez recruté Stian, bon c'était pas un jeune talent quoi, on savait déjà qu'il était très bon.
Oui, clairement, clairement. En fait, en gros, c'est notre stratégie, nous, et que je pense que c'est toutes les marques qui le cherchent. Nous, chez ASICS, on cherche, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Le jeune qui a une appétence certaine pour l'ultra et qui est capable, dans les 3 ans, de faire le mieux possible à l'UTMB, si possible, sur la boîte.
Ah ouais?
Dans la...
Et tout le monde cherche ça?
Bah, je pense une bonne partie, ouais. Une bonne partie des marques cherchent un petit peu cette stratégie,
Ah ouais.
cet athlète-là. Alors
Pas
nous,
facile, hein?
au quotidien, ben non, parce qu'en France, je pense qu'on peut se poser la question aujourd'hui, c'est qui? Voilà. Il y en a, hein, mais voilà, on a été en discussion. Des fois, on n'est même pas rentré en discussion parce que c'est pas la peine, mais voilà. Donc en fait, bah, ça c'était cette première stratégie. Après, nous, on a une stratégie également de formateur avec l'ensemble des éléments que je t'ai amené tout à l'heure. Donc on avait cette casquette un petit peu, peut-être un petit peu de formateur et d'accompagnement vers le haut niveau, notamment pour les jeunes issus du TEF. Et puis après, on a des athlètes qui sont ni issus du TEF et qui sont pas non plus dans le profil ultra qu'on essaie d'accompagner de la meilleure des façons. Par exemple, je peux citer par exemple Quentin et les deux frères Mello, tu vois, Quentin qui est plutôt sur le trail court, Alex qui est plutôt sur un trail long avec un projet un peu plus à long terme. Donc voilà, ça va être ça les stratégies. Donc qui c'est que je vire? Bon bah a priori pour l'instant avant le 31 décembre, ben personne. Qui c'est que je signe
Ouais, bien
avant le
sûr, tu
31?
peux pas nous
Ouais,
donner des
avant le
noms, mais
31.
oui, c'est le turnover, quoi, donc.
Voilà, ça va être du turnover. Il y a certains qu'on arrête et en français, certains qu'on va prendre. Mais aujourd'hui, on a signé à coup sûr les deux athlètes du TEF, à savoir Julie Lelong et Romain Dichère. Ça, c'est les deux qui ont gagné le TEF et qui seront dans le team ASICS l'année prochaine.
Ouais.
Marie est reconduite également. Voilà. Et donc, en général, le TEF, on a un accompagnement sur 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pour Romain et Julie, ça va attaquer à partir de 2024. Donc, ils auront 24-25. Et par exemple, les anciens, bah, ça sera 23-24. Et après, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas, ou est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on n'accompagne pas. Voilà. Tout ça, c'est des discussions en fonction des budgets impartis pour le team et des budgets supplémentaires ou inférieurs, quoi. Donc c'est
Ah
tout est
ouais.
question de réflexion.
Ah, tu vas voir, j'ai une question très bien là, sur le budget là, elle arrive là. Comment Donc là, vous avez le tra... Donc vous, c'est un peu facile parce que vous avez le Trail Elite Factory, donc vous repérez même pas les jeunes, en fait, ils arrivent vers vous comme une nuée d'abeilles, et puis vous essayez de prendre la plus rapide. Comment vous repérez un jeune prometteur ou un cadre déjà en place, potentiellement recrutable? Qu'est-ce que tu regardes toi, tout au long de l'année?
Alors moi je regarde déjà jusqu'à quand court son contrat. Donc si je trouve
Ah
quelqu'un qui
ouais,
est
et comment tu sais ça?
intéressant, ben, faut lui poser la question.
Ah oui, c'est simple, ouais.
Faut lui poser la question, à savoir aujourd'hui tu es engagé jusqu'à quand avec cette marque? dit, bah, j'arrive en fin de contrat l'année prochaine. Bon, bah, je suis
Ah.
peut-être un peu plus, on va dire, je vais être un peu plus en veille sur sur cet athlète. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, des fois bah, tu te casses les dents, des fois bah, tu vas pas forcément au bout parce que ça y va pas, et ainsi de suite. Mais globalement, ça va être ça la première veille. Et puis la deuxième, en fait, ça va être un petit peu en fonction des courses, comment il construit sa saison, quel perf quel perf il peut faire. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de guideline très strict. J'ai plusieurs, on va dire, j'ai un cluster de veille. Je vais avoir plusieurs éléments et puis peut-être également regarder du côté de discipline annexe, ski de rando, ski de fond, CO, avec des gens qui sont peut-être plus ou moins intéressants. Mais encore une fois, sur ces veilles-là, c'est pas forcément, je vais pas y accorder trop non plus d'importance dans la mesure où il va falloir après capitaliser sur le profil qu'on souhaite, à savoir un peu type trail long ultra. Donc c'est souvent peu le cas dans ces profils-là. Mais ouais, je vais avoir un petit peu des tendances en fonction des moments de saison. Tu vois, typiquement, là, les France arrivent tôt en début de saison. Bah, typiquement, c'est un peu là sur la suite. Là, en fin de saison, on n'a pas eu grand-chose. On a la Saint-Élion pour se mettre en pour se mettre bah, pour on va dire valider ce qui était validé. Maintenant, après, début de saison, les France qui arrivent début avril, bah, c'est intéressant de voir un petit peu. En général, il y a quand même ça donne une bonne tendance. Ce qui est plus le cas maintenant, finalement, avec les France en début d'année que les France qui étaient placées avant en septembre.
Ouais, où
Donc,
les athlètes, ils arrivaient
ouais,
après avoir fait une saison, c'était pas tous la même.
voilà.
Bon, là,
Voilà. Puis
globalement, tout le monde fait à peu près le même hiver, hein. Tu peux pas faire des miracles, hein, en France, l'hiver, hein.
Non, bah, si ton objectif c'est l'équipe de France et enfin si ton objectif c'est l'équipe de France et trail court ou trail long, mais oui, si les objectifs sont début avril, globalement tout le monde va à peu près faire le même hiver. Alors ceux qui auront fait la Saint-Élion, est-ce que c'est impacté, est-ce que c'est pas impacté, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, oui, tout le monde va à peu près faire le même hiver pour avoir une stratégie similaire sur les France, donc ça va être bien.
Tiens, question suivante, là, il nous en reste juste trois. Quels sont les professionnels qui interviennent dans le team? Toi, je pense que tu as cette casquette, bah forcément, ostéopathe, c'est ton métier, kiné-ostéopathe. Mais est-ce qu'il n'y a que toi, d'ailleurs, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres kinés ou masseurs qui interviennent? Est-ce que vous proposez aussi quelques diététiciens que vous connaissez peut-être, ou des entraîneurs avec qui vous avez de bonnes affinités? Est-ce que vous proposez tout ça aux athlètes?
Alors, nous, en général, alors, deux possibilités. Soit, effectivement, on a, enfin, pour la partie, ce qu'on appelle kiné. Alors, moi, j'ai pas été recruté sur cette casquette-là. Donc, c'est
Ouais,
pas
parce
moi
qu'il
qui vais.
faut être un peu en présentiel quand même, donc c'est difficile quand les
Voilà,
gens y
peut-être.
sont.
Bah, voilà, puis déjà, d'une part, et puis en plus, c'est surtout qu'en plus, comment s'appelle l'aspect soin, en général, c'est sur l'aspect, c'est sur les événements. Et sur les événements, moi, en gros, je peux pas assurer et l'expertise terrain et faire le ravitaillement et en plus faire les soins. Ça
Ah
marche
oui, non,
pas.
non,
Ça
compliqué.
marche pas. Donc, on a un médecin rattaché au team, c'est Arthur Molik.
OK.
On a un kiné qui nous accompagne également, c'est Fabien, et une ostéo qui est Charline, qui nous accompagne sur les moments où on a le team en place, donc sur la Saint-Élion et sur les gros événements, on a enfin, la semaine à Chamonix et le stage. Donc ça, là-dessus, on a quelqu'un. Après, au niveau nutrition, ben, c'est justement là en lien avec cette casquette-là, moi, de professionnel de santé, où s'il y a des attentes et des besoins particuliers, je peux mettre en relation avec des gens avec qui moi je travaille déjà. Et puis l'entraînement, ben, soit l'athlète est déjà entraîné et ben, nous, on est consultatif dans ce cadre-là et souvent on rentre en contact avec l'entraîneur initial. Soit après on peut proposer un accompagnement dans cette sphère-là et puis on voit comment c'est contractualisable.
Ok, ouais, ça retombe bien sur le fait que vous avez un peu toutes les cordes à votre arc quand l'athlète signe et du coup il n'a pas seulement un chèque, quoi. Tiens, la question, t'as failli répondre tout à l'heure. Demain, le Team ASICS double son budget. Alors, je sais pas combien c'est aujourd'hui, mais imaginons un x2, je sais pas, un important donateur, une levée de fonds exceptionnelle. Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce
On
que je
recrute
fais?
Kylian, qu'est-ce qu'on fait?
Alors en fait, je pense que les attentes de moi sont pas forcément les attentes uniquement du marketing.
Tu veux pas recruter Kylian?
Non, parce que là en fait, ça voudrait dire c'est pas un appel, c'est pas c'est une. Non, là ça serait un peu compliqué parce qu'il faudrait faire une fusion avec Normal, donc ça va être compliqué. Non, 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 mais moi si je double mon budget aujourd'hui, il y a certains process que que je pourrais améliorer. Je ferai plus de regroupements, je ferai plus d'accompagnement individualisé sur des problématiques et des thématiques très particulières, tu vois, notamment par exemple, je fais en sorte de pouvoir accompagner l'ensemble des athlètes, par exemple, sur des tests physio de début de saison,
Ah ouais.
notamment des différents seuils SV1, SV2 sous maximale là pour enfin en vitesse sous maximale pour optimiser l'entraînement. Tout ça peut chiffrer déjà un petit peu. Et après, bah ouais, moi je vais avoir tendance à pouvoir tirer une bonne partie de cet argent sur du recrutement. Donc oui, je vais essayer en sorte de recruter des gens que aujourd'hui étaient entre guillemets un peu chers, enfin un peu chers. Un peu cher pour nous ou qu'on pouvait pas se permettre parce qu'on avait priorisé quelqu'un. Et là, du coup, bah, on choisit plus. On prend les deux.
Ok, ouais, intéressant. Ouais, j'ai pas toujours eu les mêmes réponses, mais je pense que c'est ça qui me parle le plus. Alors, dernière petite question. Je sais pas si elle est très valable du coup pour le Team ASICS qui est plutôt autonome, quoique si. ASICS, c'est quelqu'un, enfin une marque qui donne de l'argent à Laurent Hardito, toi, enfin. Pour qu'il y ait un team avec des coureurs qui fonctionnent. Et à quel moment le comité directeur d'ASICS vous demande des comptes en disant bon bah alors nos athlètes, ça s'est bien passé, ils ont crevé l'écran un peu. Est-ce que tu fais un bilan avec les donateurs en fin d'année?
Alors nous, on a ce qu'on appelle comment dire, des obligations de moyens et pas des obligations de résultats. C'est-à-dire qu'on est suffisamment dans le milieu depuis longtemps avec Laurent pour dire que des fois, bah, ça sourit et des fois, ça sourit moins. Tu
Ouais.
prends par exemple une année du Team ASICS comme 2013, où Xav gagne l'UTMB et moi je gagne les Templiers. Je pense qu'il y a peu de trails, enfin il y a peu de teams en France qui ont réussi à avoir ce doublé-là. Bah, des fois, ça tombe super bien, et des fois, l'année d'après, bah, il n'y a plus rien on ne gagne rien. Donc, par contre, on a les mêmes moyens et on met en place les mêmes choses. Donc, on a quand même une obligation de moyens vis-à-vis des athlètes qu'on accompagne. Et auquel cas, nous, après, vis-à-vis de la marque, on a quand même une obligation de rendre des comptes sur ce que les moyens ont produit. Et donc on a quand même une espèce comment ça s'appelle de cahier de compte rendu de chaque week-end. Laurent fait un compte rendu de l'ensemble des athlètes et l'ensemble des courses qu'ont couvert les athlètes. Donc ben voilà, parce que le problème c'est que quand tu as 40 athlètes qui vont de la Norvège jusqu'en la Slovénie, savoir qu'on a un athlète ASICS qui a gagné les championnats nationaux de kilomètres vertical en Slovénie, ben, c'est pas que ça prend du temps, mais il faut avoir l'idée d'aller chercher. Donc nous, on est aussi là-dessus sur ben, déjà avoir un process simple pour récupérer les résultats de l'ensemble des athlètes. Donc, et auquel cas on compile et à la fin de l'année on regarde en fait l'ensemble des résultats des athlètes ASICS. Mais on n'a pas de la part de la marque en disant en gros si dans 2 ans vous n'avez pas gagné l'UTMB vous sautez. Non,
Ouais,
ça
ouais,
c'est pas du bon, ça c'est pas le enfin, c'est pas la tendance actuelle.
ouais. Ouais, ça me semblait assez évident. Ok, ouais. Puis il y a surtout des visions long terme. On voit, vous faites signer un jeune, il a un contrat de 2 ans. Bon, ben voilà, on lui dit pas au bout de la première année, oh putain, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais. Est-ce que
Bah,
tu leur mets un peu des warm-up des fois en milieu de saison pour finir là? Est-ce que tu leur mets un peu des warm-up en disant bah tiens, fais gaffe là, tu vois, là, t'as raté ton premier objectif, bon là, qu'est-ce que tu nous fais là? Une petite déprime, là, il va falloir t'y remettre un petit peu, je vais t'aider et tout, parce que là, tu vois, est-ce que tu leur fais un peu des warm-up des fois?
non, mais moi, le gros warm-up que je mets en général, c'est quand tu arrives dans le team. En général, la première année, ils se blessent parce qu'ils veulent démontrer qu'ils ont leur place et qu'ils méritent
Ah.
leur place. La première année, mais ça, c'est pas propre à ZYX, hein, c'est propre à n'importe quel team. En général, quand tu recrutes quelqu'un, la première année, il veut montrer son potentiel et souvent, en fait, même si je leur dis, hein, juste continuer à faire ce qui t'a fait venir dans le team, en fait. C'est juste ça, parce que visiblement, le process est bon. Celui qui t'a amené à haut niveau pour qu'on te recrute, visiblement, ça a l'air d'être pas trop trop mal. Donc, il n'y a aucune raison de changer. Malgré ça, il change quand même. Donc, non, non, je ne mets pas de warm-up, parce que je n'ai pas vraiment besoin de mettre un warm-up. Je pense que quand un athlète ne performe pas, le plus déçu, c'est l'athlète. Sinon, en général, il ne fait pas du haut niveau. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter, de lui remettre la tête sous l'eau quand il est en train d'essayer de sortir de la piscine. Donc, moi aujourd'hui, je ne mets pas de warm-up, j'essaye d'accompagner de la meilleure des façons. Et je sais très bien, en fait, pour être complètement transparent, je sais très bien l'image que ASICS peut avoir dans le milieu et que cette image qui est complètement un peu faussée. Et moi, si je dois amener si je dois amener, par exemple, une anecdote. Moi, en 2013, quand j'arrive chez ASICS, donc moi je quitte Salomon en 2012, j'arrive chez ASICS pour.
Comme Stian.
J'arrive, voilà, en 2012, je gagne Leadville et 2013, je quitte Salomon pour aller chez ASICS pour plein de raisons particulières. Et ben, ASICS vient me chercher pour clairement gagner les Templiers. Donc moi je dis ben ouais pas de souci, ça peut être un truc qui m'intéresse bien. La dernière fois que je les ai gagnés, c'est en 2010. Je pense que je suis encore dimensionné pour pouvoir les gagner. Donc bref. Et 2013, 2012, fin 2012, je me fais quand même opérer d'une pubalgie. Donc ça c'était en novembre. Donc ils signent un athlète qui, une semaine après avoir signé, se fait opérer. Hein.
Ah ouais.
Donc, Laurent, il me dit, mais non, mais bon, il n'y a pas de souci, je te fais confiance, je pense que tu as une capacité à revenir. Je dis, bah oui, je pense aussi, enfin, tout du coup, c'est ce que j'espère, parce que sinon, je ne me fais pas opérer. Je recours, je regagne le trail des Cabornies en mars, tu vois, un truc comme ça, là. Derrière, tout va bien, et je me blesse. Je me blesse, je me fais fracture de fatigue au péroné en mai. Juin de merde, juillet de merde, je rattaque à la 6000D, je me fais la cheville. Donc pour l'instant, bilan de la saison, vainqueur des Cabornies en mars et toujours rien sous la dent.
Ouais.
Donc super intéressant. Je me souviendrai toujours j'étais avec mon épouse dans la chambre, on était à La Plagne, sur cette belle station de La Plagne. Laurent débarque dans la chambre, il dit, bon, Tom, il y a un truc qu'on fait pas bien. Ben, je dis, mais non, on fait pas bien, c'est du pas de bol en fait. J'ai fracture de fatigue, je rattaque, je me fais une entorse, bon, ben, pas bien, non, pas top. Il dit, non, non, mais moi, je sais que tu seras au point pour les Templiers. Il n'est pas venu vers moi pour me mettre la tête sous l'eau en disant, putain, va falloir que tu me fasses une belle fin de saison parce que pour l'instant, c'est un peu de la merde. Et là-dessus se passe, moi, je coupe tous les réseaux sociaux, je coupe tous les Strava, je coupe tout.
Et
Et je
encore, à
me
l'époque,
dis,
c'était pas beaucoup, hein.
Et encore, c'était pas beaucoup. Ça m'a pas pris beaucoup de temps parce que du coup, j'avais pas grand-chose. J'avais même pas de compte Instagram, je pense. Donc, je me dis aujourd'hui, ben, focus, Templiers. Donc, à partir de mi-août jusqu'à fin octobre, moi, mon but, c'était de gagner les Templiers. Et ben, en septembre, il y a Laurent qui m'appelle et qui me dit, bon, quand est-ce qu'on va reconnaître le parcours? Ben, je dis, non, mais bon, je suis le seul. Là, on va pas aller reconnaître le parcours. Je connais par cœur. Si, si. Moi. Tu me dis quand est-ce qu'on va reconnaître le parcours, je viens t'accompagner. Et ben, il habite dans l'Ain, à peu près à 2 h 30 de chez moi. Il a
Ouais.
débarqué un vendredi après-midi, il est venu me chercher, on est descendu à Millau, il m'a fait tous les points de passage, tous les ravitaillements, il attendait dans la voiture pendant que je faisais mes navettes à Masbio, il m'a ramené à Clermont samedi soir, il m'a dit, bon, c'est bon, je pense qu'on l'appelle en octobre.
Ah,
Ben,
c'est bon ça.
ça, en
Ça, c'est
fait.
un bon team manager, ça.
Et bah oui, et ça, en fait, je sais très bien l'image qu'il a, Laurent, dans le milieu. Et les gens, en
Ah ben,
fait,
c'est
je
comme tout le
pense
monde,
que.
il a des qualités, il a des défauts, quoi.
Exactement. Mais à un moment donné, ça, tu vois, cette valeur-là, bah, elle n'est pas chiffrable, en fait.
Ouais, à un moment donné, il fait les choses, quoi.
À combien tu chiffres la disponibilité d'un gars, le fait qu'il s'accapare tes problèmes, il s'accapare tes problématiques et la valeur avec laquelle tu vas pouvoir en fait, rebondir. Mais ça, à combien tu le chiffres sur une saison? Moi, je peux te dire que là, moi, en gros, il m'aurait donné 5 000 pour me dire, ben, 5 000 de plus pour me dire, mais par contre, t'es blessé, mais démerde-toi. Par contre, moi, je veux que tu marches en fin octobre. Ben, mais jamais de la vie, en fait, je les prends les 5 000. Parce que j'ai pas envie. Moi, ce que je veux, c'est bah, les 5 000, je les prends pas parce que je veux être accompagné. À la fin, finalement, je me rends compte qu'avec du recul, bah, 2013 et la victoire aux Templiers, c'est peut-être une de mes meilleures lignes sur le CV, tu vois. Mais ça, en gros, quand tu expliques ça à un jeune, et bah, il te prend pour un vieux con parce qu'il dit non, mais moi, ce que je veux, c'est faire des posts Insta, vivre du trail, alors que j'ai 820 Cotitra, mais par contre, maintenant, je vais m'y mettre à fond.
Ouais, je sens que je vais gagner.
Ben, je sens que là, je sens que j'ai du potentiel. Ben, super. C'est parfait. Mais bon, moi, en gros, je pense qu'il faut monter les choses les unes après les autres. Moi, en 2013, j'avais 33 ans. Là, quand je discute avec des jeunes qui veulent se mettre au trail, ils ont 24 ans, mais ils ont déjà tout vu et tout compris. Ça, c'est. Et ils ne souhaitent pas être accompagnés. Je leur dis, mais en
Ouais.
fait, tu ne te rends pas compte. La valeur d'un accompagnement, combien ça vaut, ça?
C'est marrant parce que, tu vois, là, j'ai que 31 ans. Mais déjà, quand je vois ce que je faisais quand j'avais 25 ans, où justement, je débutais dans la discipline, et la maîtrise que j'ai aujourd'hui, alors aujourd'hui, j'ai moins de temps pour pratiquer, mais par contre, je connais quand même plus de choses. Et du coup, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et encore, toi, c'est un degré encore supérieur.
Mais non, mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que, et c'est là où on dit encore une fois, la professionnalisation, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et c'est un chemin. Et ce chemin-là, ben, en fait, tu peux pas commencer à l'envers. Et que c'est ce que tu fais à 25 ans, ben, tu étais peut-être. Tu avais peut-être tout vu, tout compris, mais tu te rends compte qu'à 31, bah, tu as plus appris que ce que tu savais à 25. Donc, tu dis, bah ouais, c'est bizarre parce qu'à 25, j'avais vraiment l'impression d'avoir tout compris. Bah ouais, mais non, gros, tu te rends compte que, avec 6 ans de plus, il y a des choses que tu fais différemment, des choses que tu as abandonnées, des choses que tu as optimisées. Et ça, je pense que si à 25, 26, Patrick, il te dit ça, et ben, tu dis non, mais c'est de la merde. Et puis tu dis à 31, tu dis, putain, ouais, en fait, c'était pas con, en fait.
Ouais, c'est
Donc
ça.
voilà, et ça, en gros, c'est peut-être parce que j'ai plus de 40 maintenant que je me rends compte, mais je me dis la valeur de l'expérience et la valeur d'un accompagnement de quelqu'un qui a de l'expérience, putain, mais c'est un truc de malade, en fait. C'est un truc de malade le temps que ça te fait gagner et l'énergie que ça te fait gagner. C'est un
Ouais,
truc de fou.
le
C'est un truc de fou.
conseiller, le mentor, le...
C'est. Mentor, j'aime pas trop ce terme parce que je pense que tout le monde doit faire sa place. Et je
Ouais.
dirais plutôt. Quelqu'un qui va, voilà, en gros, à un moment donné, tu vois, qui va te faire le pacing ou le sparring partner, mais avec ses problématiques à lui, mais surtout ses conseils à lui, de gars qui finalement est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Il est là juste pour ta plus-value à toi. Il n'est pas là pour essayer de profiter de toi et de te niquer à la fin. Il est là parce que, en gros, ça lui fait plaisir et il souhaite partager l'expérience qu'il a eue dans cet accompagnement-là. Donc, putain, mais je me dis, ça c'est. Bah oui, c'est clair que ça. Combien ça coûte? Mais j'en sais rien en fait, combien ça coûte.
Et ben ouais, bah ouais, ce sera une très belle phrase de fin. Bah merci Thomas.
Bon.
Qu'est-ce qu'on
Merci,
pourrait
Hugo.
rajouter? Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose de très important?
Non, je dirais que la prochaine étape, ça va être l'arrivée des agents.
Ouais, mais il y en a déjà beaucoup, on n'a pas parlé de ça aussi. Alors
Ouais,
Julien,
alors
on a eu Julien Chaurier de Oka juste avant, alors lui se plaignait. De
déjà.
discuter avec des agents et plus des athlètes, justement, maintenant.
Ouais, ben bon, en fait, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que c'est les marques qui ont créé les conditions pour que les agents arrivent. Et que dès l'instant où tu vas commencer à contractualiser les choses, et ça, en fait, c'est une sphère complètement stressante, justement pour un jeune. De le contrat, qu'est-ce qu'il y a écrit, qu'est-ce que je dois et comment ça se passe, et machin, les rollovers, les bitumes. Bah, paradoxalement, en fait, bah, à mon sens, c'est intéressant alors d'être accompagné, oui, et d'être complété par une sphère, on va dire, une sphère en droit, bah, je pense que c'est capital, ouais. Je pense que c'est capital. Parce que l'énergie que tu prends pas là-dedans, putain, tu peux la mettre ailleurs.
Ouais. On va
Mais
voir comment ça se goupille tout ça. Ok, ouais.
clairement.
Bon, bah écoute, merci Thomas.
Merci Hugo. À
On se voit sur le
bientôt.
terrain, peut-être à la Drôme ou.
Ah oui, la Drôme, c'est
Ou
évident, c'est
alors.
marqué.
Ouais. Je viens courir, mais il y a peu de chances que je gagne quand même. En plus, maintenant, il y a de plus en plus de contrôles antidopage, donc.
Ah oui, voilà, alors trop risqué.
Malheureusement.
Risqué.
Salut Thomas, merci.
Merci Hugo, à très vite.